parti de la route de, qui va jusqu'à la Loire. Il y a la Loire, c'est vraiment un changement, c'est là où tout bascule. De la Loire, on va jusqu'à Avignon. À partir d'Avignon, on commence à entrer dans ce qui est la Provence, enfin dans ce qui est le monde des cigales, le monde de la chaleur, etc. Et puis il y a encore une autre étape, probablement. En tout cas, ça correspond au montage du film qui est Saint-Tropez, puisque c'est là où tous vont coaguler toute l'imagerie qui va être à l'époque. Parce que, alors peut-être, vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous voyez cette route, puisque vous l'avez vécu, vous l'avez aimé, et comment vous la découperiez, si vous posez la question. Paris.
Ça commence à Paris dans un petit garage antidiluvien.
Non, on commence à dire. La Nationale 7 commence à Paris.
Ouais, la Nationale 7 commence à Paris. Elle commence à la Bastille. J'ai repris la Bastille, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait un vieux garage qui n'existe plus. Et dans le fond du garage, il y avait une 4 chevaux, des années, sous un 2 tonnes de poussière. Moi, j'ai demandé au mécano qu'est-ce que c'est. Il me dit oh, c'est rien. Et ce rien s'est transformé en une voiture qui roule. La porte d'Italie, déjà, première étape. Et là, il y a la côte de Villejuif, une espèce de montée assez difficile pour une 4 chevaux. Et effectivement, j'ai monté à pied ou avec un véhicule, vous levez un peu le nez, de cette montée à Villejuif, vous verrez la côte d'Azur. Les pavés en plastique, surtout. C'est quand même.
C'est une des choses que j'avais vues dans les premières conversations. C'est une assez jolie phrase. Vous savez, quand on se dresse sur la plaine des pieds,
c'est ça.
On aperçoit des cabanons. Sans doute, il y avait des cabanons. Et qui peuvent d'une certaine manière symboliser le cabanon du midi,
C'était pour le film 4 chevaux, c'était quand même une longue quête. On l'a su après par les témoignages directs. Je vois la palue qui a fait un peu battre le fabriquait des balais et brosses, le balai en sorgho. Et en fait, bien entendu, ces gens étaient des fossiles, se plaignant même de la déviation de la 7 et en plus de l'autoroute, bien entendu. Ça, l'autoroute, c'est le tueur de la Nationale 7.
Alors, cette histoire de ce qu'on peut voir sur la bande des pieds, essayez de me reprendre. Comme je dis toujours, quand on est à ce moment-là, à cette époque-là, ça a beaucoup changé, mais que si on se dressait, on pouvait voir.
Selon moi, on arrivait difficicilement à Fontainebleau, déjà première étape évoquée tout à l'heure. Et déjà, c'était une longue quête, parce qu'il y a déjà les premiers embouteillages. Les premiers embouteillages, on a la pyramide de Fontainebleau. Il faut tout faire trois fois le tour, c'est comme la Mecque. Plus 9 fois le tour pour arriver à sortir de ce merdier. Et ça, c'est intéressant. Là, le vin, tiens, d'un seul coup, il est vraiment, vraiment sur la 7. Robert Doisneau avait une petite 4 chevaux aussi. Il me racontait, c'est une idée de Pierre Prévert de faire le voyage fantastique. Le voyage fantastique, c'était de tourner autour de Paris sur les boulevards des Maréchaux, sans dire à ses deux filles derrière où on allait. Et en fait, les filles réclament « Papa, papa, où est-ce qu'on va cette année ? Papa, papa !» Et puis, finalement, à un moment donné, paf ! Et c'est ce qu'on appelait le voyage surprise. J'ai cherché le titre du film de Pierre Prévert, le voyage surprise. Et ça, c'est formidable parce qu'on n'a plus du tout envie de le faire.
Alors, il y a une première étape qui est Fontainebleau. C'est-à-dire, ça commence mal. Ça commence par l'embouteillage. Ça commence par une route qui est un début de cauchemar.
Cauchemar du bonheur, c'est ça ? Parce que finalement, c'était une quête du Sud. Je pense que pour la classe ouvrière, je pense que la première fois, hormis, enfin, on va pas remonter jusqu'en 36, là, on est après-guerre. En 36, c'est le premier bain de mer. Mais la 7, c'est beaucoup plus loin. Moi, je suis un fils de mes grand-mères, je ne suis pas français.
Ouais. On parlait d'idée du cauchemar.
Voilà, le cauchemar, finalement, c'était le rêve de mes grands-parents.
On partait de Fontainebleau en disant
pardon.
On commence par un cauchemar.
D'accord. À Fontainebleau, la pyramide joue un rôle essentiel puisqu'elle permettait de prendre la bonne direction. Pardon.
À Fontainebleau,
je crois que c'est là, c'est déterminant, il y a la pyramide qui vous montre le sud, elle est inclinée vers le sud. Et à ce moment-là, la longue quête commence parce que tout le Morvan à traverser, toute une partie de village à traverser, et dans chaque village, dans chaque ville, c'était à chaque fois un embouteillage. Qui dit embouteillage, dit regard des gens du coin, les autochtones, qui voient toutes ces voitures. Et dans le livre, on a mis une photo de Robert Doisneau, où Goguenard, c'est à Brignoles la photo, où Goguenard, les gens du cru, regardent les touristes passer.
Ils sont Goguenard ou ils sont jaloux ?
Goguenard. Jaloux, je pense pas. Je pense que c'est des gens qui font un voyage intérieur, qui ont pas besoin de voyager, j'en ai rencontré plein. Et puis finalement, ils sont au soleil, ils vivent dans le mythe des gens du Nord, quoi, un petit peu.
Est-ce que c'est pas aussi... Puisque vous parlez de ces voyeurs, de ceux qui regardent passer les autres, est-ce que c'est pas aussi parce qu'ils sont, eux, dans un autre monde, ou exactement, ils viennent d'un autre monde, ils sont dans le monde frileux, dans le monde qui a été écrasé pendant les 4 années de civilisation, l'ordre moral des Chinois, une espèce de grisaille comme ça, d'une petite vie, une vie étriquée.
Bizarrement, la zone nono qu'on évoquait tout à l'heure par rapport à Nevers, la zone nono était à peu près dans cette trajectoire. Et finalement, pour le touriste ou le vacancier en 4 chevaux ou en vieille voiture, finalement, cette zone nono existe toujours. Il y a ce passage à l'île de démarcation. Hein. Et même si maintenant on est dans les mémoires des gens un peu plus vieux. Et je crois qu'il y a une frontière comme ça psychologique. Et là, cette traversant tout ce territoire, ce no man's land, comme je l'appelle, une fois passé ça, on fait un grand ouf. On dit, ah, j'ai fait mon premier tiers. Après, il faut attaquer les deux autres. Les deux autres, on s'est calqué tout bêtement pour le livre National 7, on s'est calqué sur la chanson de Trenet. La chanson de Trenet était déterminante puisqu'elle dit le Paris à Saint-Paul-de-Vence. Et j'avais décidé de faire exactement le calqué sur les paroles de Trenet, et on a été jusqu'à Saint-Paul-de-Vence. Avec les ruptures, par un moment, il parle de Paris et Saint-Paul-de-Vence, de Valence, sur Rhône. On s'est arrêté à Valence. On a respecté totalement la chronologie de Charles Trenet, qui est toujours, vous marquerez, nord-sud. On ne fait jamais sud-nord. Ça, c'est très important, cette philosophie, parce que est-ce qu'on peut dire aux vacanciers, fromenter un jour, ça devient épineux.
Pour revenir à la zone nono, comme on disait à l'époque, est-ce que c'était parce que les gens qui vivaient dans la zone libre avaient l'illusion de la liberté? Qu'est-ce qui fait cette différence entre devant et derrière?
Devant et derrière, je pense qu'il y a des tas de gens qui peuvent parler de cette zone nono mieux que moi, parce qu'ils l'ont vécu très, très fort. On va prendre un photographe qui s'appelle Louis Ronis. Bien entendu, il est juif, et justement, avec ce petit truc embêtant, il a été poursuivi très très longtemps par des tas de gens qui lui voulaient du mal. Et à un moment, même, il avait un moment très épique, traverse sa zone nono, et il plonge dans la Loire pour passer, il nage, et il a laissé tous ses laïcas de l'autre côté. C'est une symbolique énorme. Quoi. Il fallait qu'il reprenne une vie sur la zone de liberté, qui finalement n'est pas si liberté que ça, vous l'avez évoqué, puisque en 1942. Plus de zone nono. Donc les Allemands arrivent au sud, et je crois qu'il y a une telle déception, vous voyez le mouvement de la flotte à Toulon, que bon, ben, effectivement, il n'y a plus de territoire où on peut se protéger. Le seul territoire où on peut se protéger, on pourrait dire un peu comme dans la chanson de Trélès, c'est la région de Vence, Saint-Paul-de-Vence, où Prévert se retrouve là-bas et réussit à créer un petit cercle d'amis en attendant que les choses s'améliorent.
Alors, dans la conversation précédente, il y a une expression qui m'avait frappé, vous parlez, c'est un peu excessif, mais je crois que c'est juste quand même. Dites au fond, l'ascète, c'est l'itinéraire d'une conquête du Graal. On va essayer de reprendre ça pour essayer d'expliciter un peu ce que vous dites.
On pourrait dire que c'est bâti sur une tromperie, c'est-à-dire que.
Alors, prenez le sujet,
l'ascète. Conquête du Graal. C'est un. Là aussi, on.
Non, c'est pas un sujet, bien attention, parce que c'est. Oui, mais. On enlève des questions, regarde. Alors, pour moi, la nationalité, c'est. Je l'ai apparenté à une sorte de conquête du Graal, quelque chose comme ça.
Oui, finalement, la National 7, c'est un peu une quête du Graal. Quelque chose qui est absolument impalpable. Et le problème de la photographie est très, très matérielle. Il faut bien ramener une image. Comment on peut mettre en image quelque chose qui n'existait déjà plus, depuis très longtemps? Donc on est finalement un dernier dinosaure et on poursuit les fantômes. Vous voyez le gros problème.
Dans cette conquête du Graal, qu'est-ce qu'il y a de plus important? C'est le mythe solaire?
Non, c'est une imagerie comme ça qui m'est venue à l'esprit. On traversera les tempêtes, on a eu de la flotte, on a eu tous les temps. Je crois qu'à chaque fois, c'est l'esprit qui vagabonde et pas forcément le corps. Moi, je crois beaucoup aux voyageurs immobiles, finalement. Et ce que je voulais proposer par ce livre à l'état de gens, c'est-à-dire que finalement, on passe dans les mêmes endroits, vous n'êtes pas obligé de les faire, vous restez dans votre lit, et de votre lit, vous apercevrez la pyramide de Fontainebleau, et etc., etc.
Cela dit, à partir de la Loire, quand même, se joue quelque chose, si on considère que cette route est aussi un parcours dramatique. Et puis, qu'est-ce qui se joue? C'est la découverte du soleil, qui a été quelque chose de tellement important. Il y a vraiment un mythe solaire qui est attaché à cette route, non?
Oui, il y a un mythe solaire, mais finalement, dans les dernières années, ça s'est un peu calmé, parce que bon, je crois que la Côte d'Azur est complètement différente de ce qu'on en espérait au point de vue liberté. Les grands-parents me disaient toujours, on va aller voir les riches sur la Côte d'Azur. Il y avait un phénomène de lutte des classes qui a complètement disparu. Donc, je pense que même quand j'ai fait la CL7 il y a 11 ans, à partir de 1984, je crois que c'était déjà fini. Enfin, qu'est-ce que je suis parti chercher? Le Graal, est-ce que c'était pas justement aller à Saint-Paul-de-Vence et de regarder la maison où Jacques Prévert avait vécu? J'ai d'ailleurs fait un petit livre là-dessus qui s'appelle Saint-Paul-de-Vence secret, pour justement essayer de remplir cette quête des fantômes qui portent le Graal. Et finalement, ce sont des petites ombres au bout de la route.
Oui, mais qui dit soleil à l'époque dit aussi explosion de la vie. C'est-à-dire, au fond, on sort quand même de l'ordre moral du chinois, on sort d'une contrainte très importante, et brusquement, on va découvrir en même temps qu'on va aller au soleil la liberté du corps, on va découvrir la liberté sexuelle. ça, c'est la grande période, c'est quand même la période avant SIDA.
Mmh. Oui. Là, on passe tout de suite aux années 60, c'est un peu différent. Moi, je me suis mis dans la peau d'un type de 1960. J'étais trop jeune pour avoir connu la guerre, et en 1960, c'était différent. À cause de la démocratisation donc, du voyage, et puis finalement, la déception, une certaine forme de déception. Parce que aller à Saint-Tropez ou à Nice, regarder les bateaux dans le port, on pouvait pas, ça n'a aucun intérêt par rapport à des gens qui n'ont pas de fric. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir les bateaux à Saint-Tropez, ils regardent les bateaux, ils sont déçus. Ça fait toujours penser à un dessin de Sempé, je crois. Vous avez une petite...
Enfin, vous qui êtes photographe, quand même, il y avait une image qui est forte parce qu'elle a été... Elle a fait couler beaucoup de passion, si on peut dire, bien que ce soit minime. C'est l'apparition du bikini, par exemple. C'est quand même, oui. C'est quand même là, le corps se libère en même temps, hein, à cette période-là.
Le corps se libère, mais surtout pas l'esprit. Je crois qu'il y a des mythes qui tombent, ça c'est clair. C'est clair que la Côte d'Azur rentre dans un cheminement où, effectivement, on en arrive à une période actuelle, 1996, où je ne pense pas qu'il y ait une quête de quoi que ce soit sur la Côte d'Azur.
Aujourd'hui,
bien entendu. Là, je raccourcis le temps. En plus, je crois que finalement, dans l'exercice photographique qu'on a essayé de faire, on savait très bien que les choses qu'on photographiait, on les photographiait dans le présent et que le lendemain, le surlendemain, ça n'existerait plus. Et je crois que cette diatribe se fait quotidiennement encore maintenant. Là, je la reprends. Parce que je vais à Sancerre souvent, que reste-t-il de National 7?
Autre mythe très important qui va être qui va se développer à l'occasion de se descendre vers le sud et sur cette route, c'est celui de l'automobile. C'est ô combien important pour les photographes, aussi bien pour vous que pour Dueno, par exemple. Alors, il y a une liaison automobile-liberté à cette époque-là, mais il y a aussi une liaison automobile-mort.
Là aussi, on rentre dans le domaine des mythes. Quand on parle de...
Alors, pour commencer par le sujet, l'automobile.
Oui, alors. Je m'excuse, on peut couper. Bonjour. Est-ce que c'est sur la 7 que s'est tué...
Camus, qui porte l'automobile à cette époque-là et sur cette route?
Après la guerre, vous parlez? Ou moi, j'actualise.
Pas maintenant, mais tel que vous les sentez par rapport à ce que vous avez cherché sur cette route.
Bon, ce qui est évident sur National 7, je rejoignais mon souci permanent en photographie, qui est de photographier des choses un peu désuètes. Mettons ce mot-là entre guillemets. Désuètes, ça voulait dire que cette quête du Graal que nous avions tout à l'heure, j'en ai fait un petit peu un truc personnel, je l'ai transformé en quelque chose de palpable. Palpable, une image. Donc une image qui véhicule énormément de choses. On ravive la mémoire des gens, on peut dire « Ah, t'as vu Germaine, c'est là où on était passé il y a 30 ans. » Donc c'est important cet effet mémoire de la photographie. D'un autre côté, bon, il y a beaucoup de leurre dedans, parce que refaire des photos comme à l'époque, et le copain de Robert Doisneau, c'est absolument pas faisable. Donc on cherchait des mythes, et on a trouvé quand même des traces. Finalement, c'est les traces des choses, c'est-à-dire les garages fermés, les gens qui sont déçus, finalement, qui ont eu la 7 transformée. C'est-à-dire, par exemple, quand l'autoroute ne tue pas complètement la National 7, il y a une déviation. À la Palue, on parle de ça un petit peu après Lyon, à la Palue, la couverture du livre, c'est une fabrique de balai-brosse. Et à la Palue, enfin, il ne reste qu'une. À la Palue, les gens se plaignaient très fortement, finalement, de ces deux débordements extérieurs. Ah, c'était tellement bien dans la 7. Et puis, quand même, la 7, c'est des embouteillages. On préfère les embouteillages au désert.
Et alors là-dedans, l'automobile, quel rôle elle joue pour vous?
À la fois, elle a un rôle.
L'automobile
a un rôle essentiel, c'est de véhiculer les gens tout au bout du chemin, quoi, cette longue traversée de la France. Mais est-ce qu'en 1955, 1956, à peu près les années où je roulais dans le 4 chevaux à cette époque-là, est-ce que tout le monde avait une automobile? Je ne pense pas. Il y avait un marché automobilistique qui était assez restreint. Donc, il y a déjà des gens qui partent en automobile, c'était déjà une couche favorisée de la société. Je reviens à mes parents, donc ils rêvaient. Ils n'avaient pas de voiture, ils n'avaient pas les moyens d'avoir une voiture. Il y a plusieurs moments, le chemin de fer rejoint la route. Hein, plusieurs moments où la route joue avec le chemin de fer. Et du wagon de chemin de fer dans lequel nous étions, deuxième classe assise, bien sûr, on voyait cette route. Et mon grand-père, regardant les voitures, dit « Ah, ils ont de la chance, malgré les embouteillages. »
Mais l'automobile, c'est, à l'époque, c'est quoi son imaginaire, c'est quoi? C'est lié à la liberté?
Oui, je pense que l'automobile...
Le sujet.
On était où?
L'automobile et la liberté.
Oui. Je pense que l'automobile, vu du train, donnait une certaine idée de la liberté. On peut s'arrêter, boire un coup, etc. Et puis, de toute façon, les embouteillages servaient beaucoup aux gens du cru pour essayer de vendre leurs produits. À Montélimar, quelque chose qui est absolument évident, qui, dans le domaine public, Montélimar égale nougat. Donc, traverser le Montélimar, les centaines de boutiques vendant du nougat. Nous, on s'est arrêté aussi, on a reproduit le même schéma, qui est donc de s'arrêter aux endroits où les gens s'arrêtaient en voiture.
Mais vous parliez tout à l'heure de la lutte des classes, et je crois que l'automobile a été aussi quelque chose sur ce plan-là d'important, parce qu'au fond, ça ne va pas durer très longtemps, mais à cette époque-là en tout cas, l'automobile, d'une certaine manière, abolit les classes. Qu'on soit en 4 chevaux ou qu'on soit pendant l'extrême en Rolls-Royce, bien entendu, ce n'est pas la même voiture, ce n'est pas le même confort, mais on peut avoir l'illusion d'être sur un pied d'égalité.
Quelle illusion la route donne ?
Oui.
Quelle illusion la route donne ? Sur la National 7, comme sur d'autres nationales, c'est un lieu commun classique, la course des classes, et la course, une Ferrari vous double dans votre 4 chevaux, est-ce que vous n'essayez pas de faire comme lui ? Est-ce qu'il n'y a pas une transformation du personnage derrière son volant qui dit « Ah, t'as vu Germaine, si on avait une Ferrari ?» Donc finalement c'est aboli, mais c'est un leurre. Aboli dans les têtes, dans les esprits. Ensuite, moi j'ai vécu très très fortement la montée de l'automobile en France par rapport à la course automobile. Je faisais des photos de voitures de course, et à chaque fois que nous allions sur une course, que ce soit par la National 7 qui nous emmenait au Paul Ricard, choses comme ça, on se rend compte qu'on rêvait. On rêvait avec des voitures qui étaient peintes comme les voitures de course. Mais le moteur, bien sûr, ne suit pas. Mais la route était dangereuse, parce qu'on jouait avec la vitesse, on jouait avec les obstacles. Quand la National 7 part de Paris pour aller à Saint-Paul-de-Vence, ce n'est qu'une suite d'obstacles. Obstacles volontaires pour arrêter un peu les gens, et puis finalement, obstacles salutaires, parce que ça permettait de se tuer facilement. Bon, on vient d'évoquer Camus, on peut évoquer les accidents de François Sagan, c'est quand même des mythes qui restent encore très tenaces, très tenus.
C'est-à-dire qu'en fait, à cette époque-là, la voiture, c'est quoi ? C'est la roulette russe, c'est ça.
C'est un petit côté, vous avez raison, là, sur la 7, voilà, sur la route, et après les morts évoquées, je crois qu'il y a un petit peu un côté roulette russe, c'est-à-dire que on gagne, on passe, on a le soleil en plein, sinon c'est la tuile. Et la tuile, là, nous l'avons vécu très près, puisque j'ai cassé plusieurs pièces sur les 4 chevaux, on s'y retrouve exactement dans les éléments de l'époque où on pouvait casser les pièces. Heureusement, ces pièces étaient dans le coffre de la voiture, à quelque chose qu'on m'avait prêté. Et on a cassé entre autres un arbre de roue à Avignon. Qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là ? Vous essayez d'appeler un garage. Oui, bonjour monsieur, je viens de casser un arbre de roue. Quelle voiture avez-vous ? 4 chevaux, 1957. Oh, au secours, je ne vais pas vous dépanner, quoi. Je veux dire, c'est clair. On arrive à se faire transvaluter chez un garage derrière la gare d'Avignon, et je vous explique le bienfait de ma démarche de type refaisant National 7. Et immédiatement, le garagiste conquis, je vais chercher votre voiture, je vous la réparle dans une heure. Et donc, c'est bien que les garagistes aussi ont la mémoire des jeux. Je crois qu'il y a un grand jeu de rôle, là. Et finalement, ce jeu de rôle, on en a ri, on riait de nos malheurs, nos petits malheurs. Bien entendu, ce n'est pas grave. Pour revenir à la Céleste 7, c'est aussi la quête du soleil. Moi, je parlerai d'un des nouveaux voyages que nous avons fait plusieurs fois en hiver. Et en hiver, c'était l'horreur. C'était l'horreur parce que vous arrivez à Nice, il y a des trombes d'eau et tout, vous êtes déçus. Moi, je l'ai fait qu'en plus, on l'a fait dans des temps qui n'étaient pas les mêmes au niveau des mois. C'est-à-dire que je pense que la quête de l'Ancien siècle, elle se faisait en été. J'ai eu un petit peu tendance à peut-être à faire trop de photos l'hiver. Alors, on n'a pas les mêmes lumières, et finalement, on a la lumière de la nostalgie. Mot amplement galvaudé.
Puisqu'on parle de la lumière, comment ça fait que c'est si difficile justement de montrer cette césure entre le nord et le sud, entre le monde gris et le monde lumineux ? Donc, là, bon, ça commence sous le monde de la lumière.
Le monde de la lumière, ça commence dans la tête, je crois. D'abord, ça commence dans certaines visions que les hommes trimballent depuis qu'on est sur Terre. Où on va ? Est-ce que j'ai un grand flash au moment où je meurs ? Et ce flash, il est quelle couleur ? Bon, je m'en parle un petit peu, parce que je suis passé loin plusieurs fois. À chaque fois, je m'interroge, je me dis, la seule réponse est dans mes photographies. Parce que les photographies, bon, c'est l'émanation de toute ma vie. Et à la fois, toute ma vie, mais je me rends compte que dans les photographies, en vieillissant, elles sont plus noires que jamais. Donc il y a eu ces dernières années une espèce de changement, les photographies qui auraient possédé des blancs et beaucoup de gris clair, et maintenant beaucoup plus de noir. Donc pourquoi ? La photographie, c'est pas ma thérapie, mais il y a une petite part de jeu avec ça.
C'est-à-dire que la photographie, c'est, pour vous, c'est quoi ? Enfin, on l'a beaucoup dit déjà, ça, mais est-ce que c'est une sorte de combat avec l'ange ? C'est l'illusion de pouvoir fixer pour l'éternité un moment de vie, un moment de bonheur, puisqu'on parle de la 7 liée au bonheur.
Bonheur et souffrance de la photographie par rapport à l'exercice de la 7, j'appelle ça un exercice. Ça n'a pas toujours été joyeux, parce qu'il fallait qu'on reste plusieurs fois au même endroit, ou éventuellement ça te pêche à la ligne en attente. Il y a deux méthodes de photographie. La première, c'est le coup de peau, comme on dit. Ça vous arrive tout cuit dans le bec, et entre autres dans le livre, il y a une traction qui est en train de mourir juste avant Moulin. C'est un hasard heureux, bien sûr. Sinon, il y a une quête de l'attente. Et cette quête de l'attente est très complexe. C'est un peu rien à voir avec les paparazzi, bien entendu. Mais c'est un peu prendre une succession de petits théâtres dans lesquels on a fait des repérages, et ces petits théâtres sont tout le long de la CSL, par exemple, mais j'applique cette méthode à d'autres endroits, en attente de ce qui peut éventuellement arriver. Mais ce qui peut arriver à vous, c'est une construction où les acteurs involontaires, c'est un peu pyrénéen, les acteurs involontaires se croisent dans ce petit théâtre. Vous appuyez, la photo est pour vous.
Si on essayait de résumer, enfin pour vous, si vous aviez à résumer en quelques photos la route, qu'est-ce que vous choisiriez comme photo que vous auriez fait, pas fait, peu importe, qu'est-ce serait, mettons des 5 étapes, 5 photos types, ou est-ce qu'on peut faire ça?
C'est difficile de couper en petits morceaux parce que c'est un puzzle irrégulier. Irrégulier dans le sens où il y a des petits raccords, on est obligé de le faire en plusieurs fois parce que c'est un champ photographique beaucoup trop étendu. Champ photographique, ça veut dire 1000 km de route où il faudrait être posté à plein d'endroits susceptibles de répondre à un type de photo. Le type de photo dont je l'évoquais tout à l'heure, c'est la nostalgie. Mot entièrement démonté actuellement. Moi, je revendique le mot nostalgie parce que je pense, je fais de la peine à Simone Signoret parce qu'elle a écrit un livre qui s'appelle La nostalgie, ni plus qu'elle était. Moi, je pense que c'est important de se retrouver dans un lieu qui vous parle avec des sentiments, qui vous parle avec des frissons dans le dos, qui vous parle d'une certaine poésie. Et je pense que c'est ça important. Vous me posez la question de mes photographies. Mes photographies ne sont pas des cris du cœur. Mes photographies, c'est la vie. C'est la vie parce que je ne peux pas blairer la mort. Je sais que c'est inéluctable. Mais en attendant, je lui fous quelques coups de poing dans la gueule parce que, madame la mort, madame la camarde, parce que c'est effectivement, le moyen de réagir, c'est de ramener des images qui, elles, sont éternelles. C'est pas le Graal, c'est pas tout à fait vrai. Will Ironis dit toujours, nous ne sommes pas en quête du Graal. Isis, au grand photographe que j'aime beaucoup, me disait un jour, on se croise dans une galerie, il me dit, tu sais, avec mes petites photos de merde, vous voyez comment on peut ramener la photographie à un petit bout de papier. Mes petits bouts de papier qui véhiculent justement ces sensations que nous évoquions tout à l'heure.
Aujourd'hui, où l'autoroute est gagnée la bataille, si on peut dire, qu'est-ce qu'on a perdu avec l'autoroute? Quel est le monde qui a disparu avec l'autoroute?
L'autoroute a tué, bien entendu, on l'évoquait tout à l'heure, les petits détours de la Seine dans les villages. Mais finalement, l'autoroute est petite à la taille humaine actuellement. Si l'homme véhicule des idées, des fonctionnements qui sont liés au fric, qui sont liés à des choses qui ne sont pas les miennes. Donc moi, je véhicule autre chose. Le principal souci, c'est l'émotion. D'essayer de voir quelqu'un sur un visage qui regarderait mon livre ou qui regarderait mes photos, voir une émotion. S'il y a une émotion dégagée, je crois que j'ai gagné.
Alors, qu'est-ce qu'on a perdu avec, je pense, par rapport à la 7, alors justement, on ne l'emprunte plus encore que
il y a, un exemple extraordinaire par rapport à la 7, c'est un écrivain qui s'appelle Julio Cortázar, qui a fait un livre sur la National 7 en la prenant moderne, c'est-à-dire qu'en fait, en prenant l'autoroute. Grand erreur, il était en midi-car, machin, avec sa copine, merde, je ne sais plus, Dan Lopez s'appelle, je ne sais plus son prénom, on va revenir. Donc, il y a un exemple typique de personnage ayant choisi la 7. Et finalement, en tombant sur l'autoroute, ils ont énormément souffert pour faire ce livre parce que ils cherchaient aussi peut-être le Graal. Et ils ont eu peur finalement de s'exposer à une certaine vindicte, à une certaine incompréhension du monde extérieur. Qu'est-ce que vous faites là? Vous vivez dans votre caravane? Vous ne comprenez pas? Ils se réfugiaient comme les nomades lands de liberté sur les arrêts d'autoroute.
Parce que justement, ce qu'il y avait parmi les choses dont on peut se souvenir sur la SF, deux choses qui sont d'ailleurs souvent liées. L'arrêt gastronomique si on en a les moyens, ou l'arrêt pique-nique si on n'a pas les moyens, et si c'est l'arrêt gastronomique, on rencontre aussi des vedettes. Faudrait... Là, est-ce que ces deux mondes se côtoient sans vraiment se rencontrer vraiment, mais là, il y a tout de même un moment qui est relativement humain où on peut apercevoir l'autre, même s'il est à 1000 lieues de vous-même.
De toute façon, là aussi, nous avons un fonctionnement différent en fonction des moyens, de la voiture, etc. Par exemple, il y a un restaurant absolument très important qui est une étape obligée, entre guillemets, c'est la mer Point à Vienne. Et effectivement, bon, les gens qui partaient de Paris en s'arrêtant à Vienne, ce n'est pas le même public que les gens qui partent en 4 chevaux. La seule chose qui est commune, c'est finalement une 4 chevaux passant devant le restaurant. Ah, oh, t'as vu, Germaine, c'est le grand restaurant français.
Il y avait aussi Pic à Valence.
Ah oui, il y avait Pic. Le Pic est important parce que Valence a vraiment vécu sur une auréole donnée par ce point. On peut penser finalement aux Trois Gros. Les Trois Gros, c'est vraiment une étape importante, à tel point que la gare a été repeinte aux couleurs des Trois Gros.
Et là,
sur un seul lieu. Parce que sur le lieu, finalement, on n'est pas sur la 7, mais la 6. J'ai fait l'erreur souvent. Oui. On amalgame les deux.
Bah, disons que c'est
la Pic, point.
Enfin, c'est cette idée qu'on a perdue, voilà, je ne sais pas si c'est fait juste, mais je crois qu'on a perdu avec l'autoroute et le fait que Pierre Tétro existe toujours, on a perdu un certain art de vivre.
C'est ça qu'on va essayer d'expliquer.
Et cet art de vivre, il était, pour les petits comme pour les grands, pour les riches comme pour les pauvres, symbolisé aussi par des rendez-vous gastronomiques et nous dire un petit peu, nous parler un peu de vivre.
Moi, je n'ai pas connu Pic.
Attendez, commencez par l'idée d'art de vivre. Là.
Ah, l'art de vivre pour le temps. Effectivement, c'est une opposition de personnages, du moins de leurs moyens. Non, qui...
Alors, l'ascète, c'était aussi un art de vivre.
Ah, oui, pardon. L'ascète, alors, dans les années 50, c'était aussi un art de vivre parce qu'elle était jalonnée par un certain nombre de restaurants dont la réputation a fait le tour du monde. On a Point, on a Pic, un tas de gens comme ça qui sont sur la l'ascète et qui jalonnent le parcours du vacancier, entre guillemets, pouvant se payer ce restaurant. Par exemple, merde, je bafouille, ça y est. C'est indispensable, non ?
C'est bien, c'est pas grave, t'inquiète pas.
Dans la France Culture, j'avais souffert aussi comme ça. En ce moment,
par exemple, Pic, je sais pas.
Oui, oui, moi j'ai pas connu ça. Le problème, c'est que dans la mémoire collective, finalement, ces restaurants résonnent mondialement, mais ils sont inaccessibles. Ils sont accessibles à la majorité des gens roulant sur la National 7 avec une voiture. À peine un salut, peut-être chez Point, etc., peut-être un salut en disant « Ah, tu as vu, Germaine, c'est un restaurant très connu. » Et Germaine dit à ce moment-là « Écoute, on va faire la pause. » Et finalement, dans cette pause souvent obligée, c'était l'œuf dur au mazout. Vous savez, les camions qui enfument complètement les gens. Et je ne sais pas, peut-être que le camion enfumant les œufs sont-ils meilleurs ?
Là, c'est le problème. Est-ce que,
that is the question.
Aussi, est-ce que Germaine aussi, de temps en temps, elle peut voir sortir de chez Pic ou de chez Point ?
Ah, une célébrité.
Ouais, voilà. Est-ce que finalement, est-ce que Trenet n'a pas, dans cette chanson assez miraculeusement, réussi à mélanger tout ça ? Tout ce que vous venez d'exprimer.
Tout à fait. J'ai une grande admiration pour Trenet parce que cette chanson a rythmé notre voyage, 1000 km. À chaque fois, on la reprenait, la chanson. On la prenait dès le départ, finalement, sifflotait. L'histoire de la musique est importante dans la photographie. Je crois qu'on a tous une petite musique en tête qui vous accompagne dans l'exercice photographique. Cette musique change en fonction de l'humeur, bien entendu, mais en fonction des photos qu'on a à faire. Par exemple, sur la National 7, souvent, on sifflotait. On sifflotait des airs anciens ou carrément, on pouvait s'isoler avec une petite musique grande musique, avec de la musique baroque. Et à ce moment-là, la 7 n'était plus une longue ligne droite. Faut pas oublier qu'elle est assez rectiligne et qu'on peut s'endormir, qu'on peut fatiguer. C'est pas toujours la fête. N'oublions pas aussi que la 7, c'est les énormes embouteillage. On parle encore des embouteillages. Alors ça, c'est important parce que dans les embouteillages, la radio a presque un rôle négatif. C'est-à-dire qu'elle enferme les gens un peu plus dans leur carlingue de ferraille. Et puis finalement, je crois que ça s'est un peu tassé, tout ça. C'est-à-dire que la 7, elle reste quoi ? Un mythe à redécouvrir.
Ok, allez, on s'arrête là. On regarde un peu les photos pour voir.